Aujourd'hui, le sujet principal de l'émission est consacré aux gestionnaires d'associations libres Garadine et que nous allons en parler avec nos invités qui sont Boaz, développeur de Garadine, Isabelle Dutailly, contributrice de ce logiciel, et Zerlon, bénévole à l'association Oasux. Donc l'échange sera animé par Laurent Costistic, administrateur de l'April, qui est avec nous au studio. Bonjour Laurent. Et il faudra d'abord vérifier si nos invités sont connectés à distance. Je ne sais pas si ça a été fait. Etienne, peux-tu me dire si la conférence téléphonique est bien... activé.
Je vais m'y connecter, brancher les micros donc, que Laurent et Isa puissent s'exprimer librement. Je vais essayer de connecter le téléphone.
Merci beaucoup Étienne. On a avec nous au studio donc Laurent qui anime l'échange et aussi Isabelle Dutet, contributrice de Garadine. Donc je vous propose de commencer l'échange avec vous.
Bonjour Isabelle. Alors effectivement le direct, c'est exactement ça. Quand on est de l'autre côté de l'écran ou de la radio, on se rend pas compte, mais effectivement c'est parfois un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de boutons, beaucoup de couleurs, et voilà, regarde ça brille, joli, ça fait un peu sapin de Noël, mais parfois quand même ça bloque. Bonjour Isabelle, contente de te recevoir ici malgré les conditions. Puis on va donc pouvoir peut-être commencer à échanger sur Garadine, qui est donc un logiciel de gestion d'association que toi tu as eu l'occasion à la fois de pratiquer, mais aussi évidemment pour lequel tu as contribué.
Tout à fait, oui.
Alors, la première question qu'on s'était donnée pour essayer d'éclairer un peu les gens qui nous écoutent, c'était pourquoi Garadine, quelles avaient été les motivations initiales de ce projet-là. Alors, je sais que c'est José qui souhaitait en parler, mais tu peut-être nous éclairer.
Eh bien, à l'origine, je crois que Boaz qui va venir avec moi, parce que c'est comme lui, c'est quand même son bébé. C'était une association d'un atelier de vélo à Dijon qui s'est dit on a besoin de gérer notre association. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de logiciels libres, enfin, de logiciels de gestion d'association. Il y en a beaucoup plus maintenant, j'ai vu. Il y avait Galette qui était complètement arrêtée. Donc ils se sont dit on va faire le boulot. Et c'est démarré ça. Et donc c'était en 2011, il s'était annoncé en 2012 au RMLL, alors je ne sais plus où c'était d'ailleurs à l'époque, mais...
Ouais, je peux pas l'aider parce qu'il y en a eu plein de RMLL.
Il était annoncé à cette époque-là, et donc voilà, et depuis, je peux dire, parce que je suis dans le projet à peu près le mois de mars, c'est que ça bouge.
Ça bouge.
Je veux dire, ça a continué à bouger depuis, mais tout le temps.
D'accord. Et du coup, l'association de vélo à Dijon, c'est en Rustine ? C'était
oui.
Bien ça ? C'est ça.
Oui.
On peut leur faire la pub au passage. Hein. En fait, j'habitais pas très 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 loin de la Rustine, je vois très situé. Mais voilà, c'est le plus grand des hasards. Mais donc, du coup, c'est pour ces besoins d'une association de recyclage de vélo, finalement, c'est le cas de le dire. Pour ces besoins-là, il a été décidé de développer soi-même donc, un logiciel qui permettait de faire finalement.
Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a surtout deux points forts. C'est-à-dire on peut gérer les membres de l'association, les adhésions, les inscriptions aux activités diverses, et faire la compta. Et ça, c'est les deux sont liés. Et c'est hyper important. En plus, on peut avoir un site, peut avoir des documents internes. Ça, c'est en plus. Enfin, je dirais, mais fondamentalement, au départ, c'est surtout là qui est extrêmement
motivé. Qui a motivé la création du logiciel, d'accord.
Oui, oui.
Et alors, parce que je me suis fait aussi à pas mal d'associations, il y a une forme de souplesse dans l'adhésion, ou finalement, c'est des adhésions de date à date. Je prends.
Ah oui, alors, sur les adhésions, on a un système qui s'appelle les activités, et derrière, on a des tarifs. Alors, une activité, ça va être, par exemple, la cotillon. Mm-hmm. La cotisation peut être des tarifs différents, qui peuvent être basés fixes, libre ou basé sur un calcul, or un calcul de revenus par exemple, voire parce qu'on a des associations qui sont des associations, on va dire ça, des petites gestions de copropriété, ça peut être un calcul de trentième par exemple, et donc ça peut être soit ponctuel, soit de date à date, soit sur une année. Donc en fait, il y a un choix qui est déjà au départ, on ne s'est pas figé. quand on vous crée le tarif, quand on crée le tarif, ben on va à un moment donné dire c'est temps, c'est calculé ou c'est de cette façon-là, et c'est sur telle période. Par contre, effectivement, tous les ans, un tel tarif c'est valable en exercice.
Alors, je fais bien la distinction, et je trouve que du coup, tu values pour Caroline, je fais bien la distinction entre adhésion, j'adhère au projet politique de l'association, hein, ça dépend des associations, mais souvent c'est 10 euros de l'adhésion. On a récupéré peut-être, on me fait savoir qu'on a récupéré Boaz et puis José, donc ils vont prendre la conversation, on termine sur la question des cotisations, puis comme ça on va pouvoir reprendre un peu le fil des questions pour essayer de ne pas perdre trop les auditeurs et les auditrices. Donc oui, donc du coup effectivement il y a la question de l'adhésion à l'association, on paye 10 euros par an, 15 euros par an, et puis effectivement quand on est en capacité ou quand le logiciel est en capacité de gérer la cotisation pour l'activité, et s'il n'y a pas plusieurs activités, c'est une force du logiciel que de pouvoir justement prioriser en fonction de l'activité de l'association. Donc je trouve que c'est finalement deux fonctions différentes. Parce que je crois que à l'époque, Galalette ne gère que l'adhésion finalement. Hein. Donc voilà, c'est un positif, je pense, à retenir pour Garadine. Alors on va dire bonjour à Boaz et à José. Je ne sais pas s'ils nous entendent.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, je sais, là, je pense que Boaz peut vous saluer.
Bonjour, je suis là.
Bienvenue tous les deux. Alors effectivement, excusez-nous pour les conditions aujourd'hui. Bah voilà, on enchaîne les problèmes techniques. Ça commence à revenir a priori, mais déjà vous êtes là, très bien. Alors je vais commencer à échanger avec Isabelle par rapport à Garadine. Alors je vais prendre la question parce que c'est vrai qu'elle s'adresse plus à Boaz ou à José sur la motivation initiale. On a un peu parlé de la ruine à Dijon. Peut-être que Boaz, tu peux compléter.
Sur QG.
Alors pardon sur les deux.
Pour
Garadine, et quelles ont été les motivations initiales quelles ont été les motivations au développement de ce projet?
Tout simplement, oui. C'était pour les besoins de notre association, donc un atelier de réparation de vélos associatifs à la Dijon. Donc où on apprend aux gens à réparer le vélo. Et donc à cette époque-là, en 2011, on a trouvé de logiciels qui convenaient, notamment parce que Galette, à cette époque, n'était développé. C'est seulement quelques mois plus tard que Jean a repris le développement de Galette. Et donc voilà, on cherchait une solution assez simple qui nous permette de faire de la compta, sachant qu'on n'avait aucune expérience en compta. Et on cherchait aussi à lui permettre de gérer les membres et aussi le site web. Donc on est... Moi, j'ai commencé à développer ça pour nos besoins, et après, ça a pris un peu plus d'ampleur.
Du coup, on se rend compte, évidemment, quand on est utilisateur, simple utilisateur type de logiciel, mais on dit bien que c'est un travail assez colossal, à partir de zéro. Est-ce que vous êtes vraiment parti de zéro, ou est-ce que vous avez regardé ce qu'il se faisait? Donc, tu évoques Galette, mais comment a été pensé le logiciel?
Moi, j'avais fait le tour de toutes les solutions, que ce soit une solution libre ou propriétaire à l'époque. Et donc j'avais un peu vu ce que je voulais. Parti de 0-0, et avec un focus sur la simplicité d'utilisation, vraiment, pour que ce soit le plus accessible possible, le plus simple.
Très bien, merci. Est-ce que José, tu veux compléter? Quand est-ce que tu as rejoint l'aventure?
Alors, merci de l'invitation. Je suis pas de l'équipe, comme un gardien, je suis de Oisux. On est un gueule, et juste fait la promotion.
Alors, excuse-moi, José, je te coupe. Il faut que tu expliques ce que c'est qu'un gueule, même si on l'a déjà dit dans les émissions précédentes. Faut que tu nous l'expliques.
D'accord. C'est un groupe. Alors, ça veut dire l'acronyme des groupes d'utilisateurs Linux. Mais en fait, ce sont des gens qui s'occupent de qui font la promotion et engagent à la pratique des logiciels libres de source, comme l'est juste Garada.
Merci.
Et donc comment, j'en suis pas moi, ainsi que les gens de Oisux contributeurs, et comment, par exemple, notre comptable, Jacques, avec le passe le cœur, ainsi que toute l'équipe Oisux, utilise Garada. Moi-même, je suis trésorier d'une autre association, et j'utilise Garada. Le complément que je voudrais apporter par rapport à ce témoignage, j'essaierai de ne pas être trop long, c'est que dans j'ai une expérience dans le monde associatif, donc comme trésorier, comme secrétaire, comme président, et j'ai toujours été traumatisé par les trésoriers. Les trésoriers et les comptables, en association, que ce soit ou entreprise. Et je dis ça pour justement bien engager le sujet par rapport à l'intérêt du gradin. Et donc, j'ai souvent rencontré des comptables, des trésoriers qui étaient un petit peu dans leur tour d'ivoire et qui imposaient un petit peu leur état et parfois même qui mettaient énormément de temps dans les réunions, même au détriment de nos actions. Et justement, gradin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour ça. C'est que ça permet justement, même à des non-initiés, alors il y a peut-être même un minimum à connaître la stabilité, mais ça justement à des non-initiés de pouvoir se approprier la gestion comptable d'une entreprise, voire même la gestion des membres, etc., tout en concentrant justement sur ce côté extrêmement ouvert, pratique, etc., communicant, puisqu'on veut partager les informations. Et donc, dans l'esprit de Gara, je trouve que c'est à ça, c'est vraiment très, très, très important. Merci.
Alors, merci pour cet éclairage. Je vais juste me tourner vers Boaz, mais je crois bien qu'on dit Garadin et non pas Garadin. Je dis une bêtise, là.
Non, c'est tout à fait ça. C'est Garadin, c'est un qui vient d'un dialecte origène d'Australie. Qui veut dire argent, tout simplement.
D'accord, donc on va dire Garadin jusqu'à la fin du geste, ce sera plus simple, hein, pour donner le vrai ton et la vraie sonorité. Merci pour cet éclairage aussi. Alors, on commençait à parler des finalités tout à l'heure avec Isabelle, quand on a entamé le sujet. On a parlé de la gestion des membres, de la gestion des cotisations, de la gestion de l'adhésion. Très j'ai évoqué la question de la comptabilité. Est-ce que Garadin fait autre chose? Et puis éventuellement, est-ce que vous pouvez détailler ses fonctionnalités? Je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole sur ce sujet.
Moi, je peux faire un petit tour rapide, mais c'est vrai que l'idée, c'est de répondre à la majorité des besoins d'une association. Principalement effectivement la gestion des ensuite des cotisations, description aux activités, la comptabilité, et aussi le site web. Donc il y a un petit CMS intégré donc qui permet de gérer le site web, des articles, des catégories, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un peu de documents, c'est-à-dire qu'il y a toute gestion de fichiers. On peut partager des documents de l'association. C'est pareil, sous forme de répertoire. Donc nous, c'est ce qu'on sert, c'est ce qu'on utilise à la Rustine pour partager des documents entre nous. Mais du coup, il y a aussi des extensions à rajouter en plus pour des besoins spécifiques. Donc par exemple, pour nous, là, on a une extension pour gérer notre stock de vélos d'occasion. On a une extension pour gérer les caisses informatiques. Donc, on a une extension qui permet d'affiler les horaires d'ouverture sur le web et une extension qui permet de prendre des rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps à l'atelier. Donc, les gens ils peuvent réserver directement sur le site web leur créneau.
D'accord. Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi, évidemment, et ça, c'est une approche qui pour les petites associations est primordiale, c'est que ce soit modulaire et que, justement, on peut recommencer avec un Garadin finalement assez épuré, avec les fonctionnalités les plus basiques possibles, et puis, au fur et à mesure des besoins de l'association, consolider, étayer avec des fonctionnalités avec l'extension que tu évoquais.
Tout à fait. D'ailleurs, en plus, on peut n'utiliser qu'une seule fonction de Garadin. On n'est pas obligé d'utiliser l'autre. En configurant sa catégorie de membres pour donner accès qu'à une seule fonctionnalité. Les autres fonctionnalités, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai des associations, ils n'utilisent que la fonctionnalité site web. D'autres qui n'utilisent que la comptabilité. Et du coup, à ce moment-là, on n'est pas obligé de tout activer.
Oui, ça je trouve ça extrêmement très précieux, hein, pour avoir refrotté à des toutes petites associations, quand on leur met des outils type des SP, alors ce qu'on dit c'est des progiciels de gestion intégrée, hein, qui effectivement potentiellement peuvent agréger énormément de fonctionnalités, quand on les met face à ce type d'outils-là et qu'on leur l'ensemble des fonctionnalités présentes devant les yeux, elles sont complètement perdues et puis évidemment on les perd très vite. Je trouve que cette approche modulaire par étape, elle est extrêmement intéressante pour des toutes petites, enfin des petites associations et plus grosses. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux compléter. Est-ce que cette expérience concrète de format sur vie petites associations et avec Garadine, est-ce que tu peux nous faire
part? Non, avec Garadine, non, j'ai pas ce genre d'expérience. Moi, j'ai simplement l'expérience de m'être auto-formée en rentrant pour écrire l'aide. Et alors, je vous ai tout à l'heure parlé de la compta. Bon, comme je suis indépendante, il y a quelques années, j'avais une comptable, qui était très sympathique. Mais j'ai eu une formation en compta qui était... pour moi, j'avais rien compris. Donc, il a fallu que j'écrive des pages d'aide, non seulement sur l'utilisation du logiciel, mais c'est sûr, parce que je mets dans la tête des associations qui débarquent, des gens qui débarquent. La compta, c'est pas leur truc. Pas le truc de... Donc il a fallu que je me forme aussi là-dessus pour écrire pour Garadine, pour l'aide. Et en fait, le logiciel est très très simple à utiliser. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de comprendre la compta à partir de là. Puisqu'une fois qu'on en avait tout mis en place, enfin une fois qu'on sait comment fonctionne le logiciel, bah, après tout vient. Il y a quand même des trucs difficiles. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre des pages pour les trucs les plus compliqués, par exemple. Enfin, les plus compliqués. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui débarque sur Garadine, une association qui jusque-là avait géré son association à l'aide d'un tableur, il faut vraiment expliquer deux, trois trucs. Il faut expliquer, par exemple, ce qu'on appelle la balance d'ouverture, dire comment mettre dans le logiciel Garadine l'argent qu'on a en banque. Ça, c'est un problème qu'on a déjà retrouvé. Je l'ai déjà retrouvé dans les appels de plus d'une fois. Donc, ça, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça facilite la compta.
Effectivement, c'est la question du transfert des comptes d'un autre logiciel, ou soit d'un tableur, parce que toutes petites associations comme ça. Mais donc je vais essayer de reprendre. On a essayé d'expliquer pourquoi il y avait eu Garadine de développer. Donc Boaz nous a expliqué que finalement dans son association de vélo à Dijon, ils avaient regardé ce qui existait. Alors à cette époque-là, il existait le logiciel libre Galette, qui aurait pu répondre aux besoins, mais qui n'était plus développé. Donc c'était prendre un risque de s'engager avec un logiciel qui n'était plus développé. Donc après avoir regardé un peu tout ce qui existait, ils se sont dit que ils allaient retrousser leurs manches et puis développer un logiciel de gestion d'association. Hein. Donc ça veut dire à la fois la question de la comptabilité, la question de la gestion des adhérents, la question des cotisations, des adhésions. On a fait la différence entre les deux avec Isabelle
Dutel. Et la communication de l'association.
Alors tout à fait, on a complété, alors ça c'était les premiers éléments qu'on a évoqués, mais Boaz a complété avec le fait qu'il y avait un CMS d'intégré, c'est-à-dire que, alors en anglais CMS Content Management System, c'est-à-dire un petit logiciel qui permet d'éditer facilement un site web. Donc ça c'est aussi assez précieux parce que la question de la communication reste une question récurrente dans le milieu associatif.
Et la communication interne aussi via les documents, il y a une fonctionnalité qui est très simple de saisie de fichiers texte où on peut écrire un texte collaboratif. Alors c'est très simple, hein, mais c'est déjà pas mal. Oui. Notamment pour saisir une réunion en cours de réunion, saisir la compte rendu de réunion.
Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement des fonctions qui sont précieuses, même si elles sont basiques, parce que ça permet de collaborer vraiment de manière efficace au sein de l'association. On a parlé aussi des extensions qui pouvaient exister. Donc l'association de la Rustine à Dijon a aussi une extension qui lui permet de gérer son stock de vélos d'occasion.
Et alors, je vais dire peut-être un mot un peu compliqué, mais il y a deux choses. Il y a le logiciel Garadine, et il y a l'instance Garadine, qui est donc le service où on peut avoir où on peut utiliser Garadine, puisque c'est un logiciel, ça on l'a pas dit, c'est un logiciel en ligne. Donc, ce qui est aussi pratique, parce que pour les associations, ça évite d'avoir des gens qui doivent aller dans un local pour saisir la compta, on peut la faire un petit peu de partout, la compta ou la gestion des membres, ce genre de choses. Donc, on a intégré trois extensions. Qui sont Taïma, la gestion du temps pour les bénévoles. Ça, c'est vraiment bien. On a une petite qui permet de réserver des... Alors, j'ai un peu oublié le nom. Ça doit s'appeler réservation. qui peut permettre de réserver un créneau d'activité, mais un seul, hein. Donc c'est très simple, mais bon. Et une troisième qui vient d'arriver, qui est les stats du site, parce que tout le monde voulait savoir comment le site était utilisé. Sachant que, mais je crois qu'on y reviendra par rapport au RGPD, donc au règlement général de la protection des données, sachant que les statistiques sont très simples, hein. C'est le nombre de pages vues, c'est tout. On ne sait pas d'où les gens viennent, on ne sait pas à partir de quel ordinateur, etc. Et ça, on s'en fiche. On ne connaît pas leur trajet, non, c'est vraiment la base.
On respecte les utilisateurs et les utilisatrices, voilà. Chez Garadine.
Voilà. Et donc, ces extensions, elles sont intégrées, on peut les activer ou non.
Très bien. Merci. Alors, ça complète effectivement, hein, ça montre à quel point le logiciel peut être complet. Alors, du coup, je prends conscience de l'existence de la gestion du temps pour les bénévoles. Ça m'intéresse particulièrement, ayant un lien fort avec Bénéva Libre. Et je crois que des discussions, des questionnements sont en cours sur des liens qui pourraient être faits avec Bénéva Libre, logiciel libre qui permet aussi de faciliter la valorisation du bénévolat dans l'association. Donc voilà, oui, ça fait partie des modules que je trouve extrêmement intéressants pour justement montrer tout ce qu'il y a à voir dans les associations et ce qu'on met rarement assez en valeur. Quoi, de mon
point de vue. C'est surtout que c'est une obligation légale maintenant de faire figurer ça dans la compta de l'association depuis 2020.
Voilà, alors Isabella peut peut-être intervenir sur ce sujet.
Alors, je me suis vraiment... j'ai étudié les textes, parce que je ne connaissais pas. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des associations qui reçoivent en fait des subventions ou des dons à au moins 153 000. Donc, c'est un chiffre, ça, c'est décidé par décret. Et ces associations, en fait, elles ont l'obligation de publier leur compte. Et après... il faut qu'ils mentionnent en fait les prestations en nature, donc le bénévolat. Elles sont pas obligées forcément de le monétariser s'ils ont pas les moyens pour le faire, mais si c'est le cas, ils doivent quand même dire quelle est l'importance, la nature de ces prestations dans l'annexe, qui est un document obligatoire quand on publie ses comptes. Donc l'obligation de publier les comptes et puis de mentionner quelle est la nature, l'intérêt, le rôle des prestations en nature. Et si elles sont en mesure de les monétariser, de les valoriser de cette façon.
Alors, par rapport au. Parce que j'ai quand même un tout petit peu lu le plan comptable de associatif 2018. En fait, à partir du moment où une association est assujettie à ce plan comptable associatif, alors là, on ne va pas énumérer les critères parce que. Enfin, l'un des critères principaux, c'est recevoir des subventions publiques. Elles doivent faire figurer ce genre d'éléments à condition que le bénévolat soit important dans le travail de l'association.
Si c'est, il faut que ça caractérise l'association, que ce soit vraiment
voilà.
Important.
Tout à c'est fait. Pas une question de montant, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment une question de...
Alors, si, parce qu'en fait, c'est pas forcément les... En fait, c'est les associations qui sont soumises obligatoirement à utiliser le plan comptable. Donc, effectivement, ça rejoint ce que dit Isabella, c'est que il faut que l'association ait un certain montant de subvention pour être obligée d'utiliser le plan comptable. D'une certaine manière, et en dessous de ce montant, l'association fait un peu ce qu'elle veut. Hein, donc.
Je suis un petit peu d'accord. Et de toute façon, ce montant de 153 000 euros rejoint aussi la nécessité d'avoir un commissaire aux comptes. Et souvent d'ailleurs, le commissaire aux comptes, il a dans ses missions la nécessité de pointer finalement quelle est la hauteur du bénévolat dans l'association. Voilà. Donc, les toutes petites associations, les très petites associations n'ont pas des contraintes fortes vis-à-vis de ça. Moi, je persiste à penser que c'est important autant que possible de le faire parce que vis-à-vis des partenaires, bah, ça permet de dire, mais regardez, c'est pas que votre subvention finalement qui fait vivre l'association, il y a aussi tous les bénévoles. Voilà, c'est un point
oui,
qui me semble.
Souvent, c'est les financeurs publics qui vont demander aussi ce genre de documents, même pour des associations avec beaucoup moins de subventions.
Tout à fait. On va en clore cette question peut-être du bénévolat, hein, puisqu'on on s'écarte un tout petit peu du sujet, quoique. Moi, je pense que c'est important d'en parler pour les associations. je voulais revenir, alors, avant qu'on soit interrompu par les problématiques techniques, on était en train d'évoquer la question de la comptabilité dans l'association. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, et je trouvais très très juste la remarque de Boaz tout à l'heure, disant, mais le problème, c'est ou Isabelle, je sais plus, le problème, c'est comptable, enfin, ces trésoriers qui sont dans leur tour d'ivoire et puis qui ont du mal à partager. C'était José, bah, pas de chance, c'était la troisième personne. Merci.
Merci.
Donc effectivement, une des difficultés finalement dans les associations, c'est le partage de cette information-là. Donc en tout cas, moi j'ai tendance à penser que Garadine peut faciliter ce partage d'informations. Chacun peut accéder à ces informations-là, chacun peut être formé à cette question-là, donc ça rend plus simple la visibilité des comptes de l'association. Alors du coup, j'allais renverser un peu la question vis-à-vis de Boaz. Ça veut dire que non seulement tu dois avoir des compétences de développeur informatique, ce qui n'est pas quelque chose de simple et qui s'acquiert en un jour, mais en plus finalement, tu dois avoir quand même compris les bases de la comptabilité pour pouvoir développer un logiciel comme Garadine.
Alors, moi je suis pas du tout comptable à l'origine. J'ai découvert la compta en même temps que le développement, et donc voilà, en fonction des retours que me font les gens, c'est comme ça que le logiciel évolue aussi. Et donc voilà, mais c'est pas un logiciel professionnel, mais c'est pour l'instant là on commence à avoir pas mal de grosses assos, des syndicats, etc., qui utilisent avec des experts comptables et des commissaires aux comptes, et pour l'instant les retours sont assez bons, donc l'objectif est atteint.
D'accord, donc même les commissaires aux comptes finalement ont validé, et les experts comptables ont validé des comptabilités d'association avec Garadine. Donc ça, je trouve que c'est quand même éloquent et démonstrateur de la qualité du logiciel.
Tout à fait.
Bon, bah merci, c'est une bonne nouvelle.
La fiabilité.
Oui, la fiabilité, bah oui, parce que des commissaires aux comptes, moi c'est pareil, j'avais essayé un logiciel libre de comptabilité qui s'appelle Noalis désormais. Il a fallu négocier, mais ça avait fini par fonctionner. Le commissaire aux comptes avait aussi accepté. Mais quand on leur disait logiciel libre, ils étaient un peu craintifs. Et ça me permet de faire du coup la transition sur le logiciel libre et la licence du logiciel. Alors pourquoi avoir choisi une licence libre pour Garadine ?
En fait, ça fait très longtemps que je fais du libre. J'ai commencé l'informatique avec Linux et ce genre de choses. Donc je viens de cette culture-là, j'ai fait de l'art libre. Tous les logiciels que j'ai fait, tout le code que j'ai fait, ça a toujours été du libre, à part en entreprise. Donc pour moi, c'était le choix logique.
D'accord. Et alors, est-ce que quelqu'un, un ou une d'entre vous, peut rappeler pour les auditeurs, même si on le fait régulièrement à l'antenne, rappeler ce qu'est un logiciel libre ?
Donc, un logiciel libre, c'est...
Merci Isabelle de te désigner.
C'est un logiciel dont on peut accéder aux sources desquelles, c'est-à-dire au code duquel on peut accéder facilement. Et qui n'est pas sur lequel il n'y a pas une notion de propriété. Donc ce code, on va pouvoir le voir, on va pouvoir l'examiner, voir s'il est bon, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir y participer. Et alors je dis ça, on se dit oui, mais attends, ça c'est rien que pour les développeurs, les gens normaux, gna gna gna. Je peux donner un exemple qui n'est pas Garadine, mais et qui m'est personnel, mais bon, sur la suite LibreOffice. Donc la suite bureautique LibreOffice, c'est aussi un logiciel libre. Et il y a des choses comme par exemple des palettes de couleurs dans LibreOffice. Et moi, je me suis mise à faire des trucs avec ces palettes de couleurs, à faire des palettes de couleurs, rédiger des tutoriels là-dessus. Donc c'est intervenir un petit peu sur le code, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, et tout ça, et j'ai réalisé que c'était un truc que je n'aurais jamais pu faire avec une suite bureautique complètement propriétaire. Et donc d'où l'intérêt du logiciel libre, c'est que ça permet en fait d'avoir non seulement de l'utiliser, de l'installer comme on veut, le nombre de fois qu'on veut, où on veut. Garadine peut être installé sur n'importe où, après tout les gens peuvent ou pas.
Et du coup, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si plusieurs personnes veulent accéder à la comptabilité, finalement, ils peuvent aussi l'installer aussi de leur côté, triturer.
Et là où c'est hyper porteur, on va prendre justement reprend l'exemple de la comptabilité, c'est que il n'y a pas de fonctionnalité pour l'instant de budget prévisionnel dans Garadine, mais il y a quelqu'un qui a développé une requête SQL mouse, enfin quelque chose de très très...
Un langage informatique pour ceux qui ne
connaissent
pas.
Voilà, à partir donc, qui va chercher les données donc dans la compta de Garadine, qui nous l'a donné, ce qui fait que, enfin du coup, bah, j'ai rédigé une page d'aide pour dire comment ça fonctionne, Et du coup, on a cette fonctionnalité qui s'ajoute. Alors, c'est pas aussi bien, c'est pas un truc presse-bouton, mais une fois qu'on a intégré la requête là où il faut dans le logiciel, on peut l'utiliser. Et je crois que ça, c'est un truc que permet le logiciel libre, mais que ne permettrait pas un logiciel qui n'est pas libre. Ça, ça fait partie des grandes qualités. Et je voudrais aussi rajouter un truc, un commentaire d'un développeur de jeu qui se posait la question. Il a reçu, c'était un Américain, je crois, et sur ses jeux, il comprenait pas parce qu'il avait reçu énormément de rapports de bugs de gens qui sont sur Linux, et très peu de gens, et alors qu'il n'y avait que 3 bugs spécifique à Linux. Et en fait, la conclusion, et on en a réfléchi sur le site Linux.fr par exemple, c'est qu'en fait, quand on utilise des logiciels libres, et Linux est un système d'exploitation libre, on est, je dirais pas formé, mais on pense plus, on sait comment, où rapporter un fonctionnement ou un dysfonctionnement, et voir, on peut même être capable de dire, ben oui, mais là, on pourrait peut-être faire comme ça, proposer des solutions. Et ça c'est typique au logiciel libre, parce que vous, je sais pas, mais moi je sais quand j'étais sous Windows ou etc. D'abord, je sais pas où j'aurais pu rapporter un bug, et ça me serait même pas venu à l'idée.
Comme on a un bien commun, on est évidemment encouragé, enfin naturellement encouragé à contribuer, puisque finalement, si on rapporte un bug, ça va améliorer le logiciel pour l'ensemble des personnes, donc pour soi, mais aussi pour les autres. Donc c'est vrai que c'est une vraie vertu du logiciel libre. Donc ça permet.
On parle de communauté autour des différents logiciels, des communautés qui se forment de plein de profils différents.
Voilà, et c'est quelque chose de naturel, quoi. Les gens font des retours et puis du coup échangent et améliorent les choses. Alors peut-être juste préciser la licence du logiciel. Alors rappelez d'abord que c'est pas parce que c'est un logiciel libre qu'il n'y a pas de licence, hein. Il y a toujours une licence attachée à un logiciel libre, enfin en tout cas dans la grande majorité des cas. Et pour que le logiciel soit libre, il faut que dans cette licence, on y retrouve les 4 libertés d'un logiciel libre. Donc ça c'était juste pour préciser, parce que parfois on entend le fait que les logiciels libres sont des logiciels libres de droit, c'est une erreur, c'est une vraie erreur. Et puis c'est pareil, j'en profite pour rappeler, alors même si on l'a encore une fois fait beaucoup sur cette antenne, que un logiciel libre ne veut pas dire gratuit, hein. Évidemment que...
Oui, c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre.
Et c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre non plus. Donc il faut vraiment distinguer les deux termes. Évidemment, c'est importé de l'anglais où le terme free veut à la fois dire libre et gratuit. On a importé cette complication en français alors qu'on avait deux termes. Du coup, ça me permet peut-être de faire une transition sur le modèle économique de Garadine. Qui est-ce qui peut nous parler de ce modèle économique-là, des perspectives aussi?
Moi, je peux en parler. Du coup, alors pour revenir sur ta question, la licence, du coup, c'est la licence AGPL, qui est donc la licence à peu près classique des logiciels libres, sauf qu'il y a une petite nuance, c'est que à partir du moment où le logiciel est modifié et installé sur un serveur, même si la personne qui utilise le logiciel n'a pas accès au code comme ça, la personne qui a modifié le code et a mis sur le serveur doit rendre disponibles les modifications. Donc c'est un peu une clause qui permet d'éviter que quelqu'un reprenne le logiciel, l'installe sous un autre nom, en faisant quelques modifs et le revendre comme ça sans redistribuer les modifications. Donc là, le but, c'est vraiment d'inciter au partage des modifications qui auraient été faites sur le logiciel.
Oui, merci pour cette précision. Effectivement, c'est la licence AGPL quand on est sur un serveur. Donc c'était important, voilà, de le préciser. Donc alors AGPL, en anglais, ça veut dire... Tu peux nous le rappeler?
Alors c'est Afero General Public License.
Merci. Voilà, donc ça a été adapté pour les serveurs, ça dérive de, voilà, la GPL, qui était pour le programme qui tournait sur un ordinateur en local.
Voilà, parce que quand pour un service web comme ça, le programme il tourne pas sur votre ordinateur, il tourne sur un serveur à distance. Donc c'est là la petite différence.
Très bien.
Et du coup,
sur le modèle économique, je te propose de faire une petite pause musicale avant d'évoquer le modèle économique, ça te va?
Allons-y,
merci.
Oui, merci Laurence. Je reprends la parole donc pour vous annoncer la pause musicale. Nous allons écouter Drunk Blues par Captain et on se retrouve juste après. Bonne écoute sur Radio Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
matin n'était pas très frais. Après serein, voire carrément mauvais. Le réveil débranché, c'était un mauvais signe. Essayer de se lever à défaut d'être digne. La soirée passée avait bien commencé. Des amis plein les bras et une robe de soirée. Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés. Elle ne savait plus comment ça s'était terminé. Elle vit toujours seule. La nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule. Et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Comme une enclume, les pieds frigorifiés. Un cachet d'aspirine dans sa tasse de café. Elle n'était pas très fière d'être dans cet état. Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça. Voilà, c'est comme ça, elle a recommencé. Et que verront suffit à la faire plonger. La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer. Éviter l'overdose, être enfin libérée. Elle vit toujours seule. La nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule. Et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier.
Nous venons d'écouter Drunk Blues par Captain sur licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0. Ce morceau est tiré du CD, du disque Flamme, qui est le premier disque officiel de cet artiste français qui vient tout juste de sortir, que vous pouvez acheter sur le site Bandcamp. On a mis la référence sur la page de l'émission. Donc si vous aimez cette musique et que vous voulez soutenir un artiste français qui publie sous licence libre, n'hésitez pas, ça peut être un joli cadeau de Noël. Et je redonne la parole maintenant à Laurent qui a animé un échange sous le gestionnaire d'association Garadine. Laurent, à toi la parole.
Merci Isabella. Donc on reprend l'antenne avec José au téléphone, Boaz aussi au téléphone et puis Isabelle qui est avec nous en studio. Alors on était en train d'aborder la question du modèle économique de Garadine, donc logiciel de gestion d'association. Est-ce que Boaz, tu peux nous expliquer un petit peu comment est pensé le modèle économique, même si j'ai cru comprendre quand même que voilà, il y avait pas beaucoup beaucoup d'argent pour développer le logiciel, je me trompe?
Non, effectivement, c'est encore assez précaire, mais on va dire que ça s'arrange un peu. Donc le logiciel a été commencé en 2011, donc ça fait bientôt 10 ans, et donc jusqu'à 2019, c'était sur mon temps libre, et depuis l'année dernière, je suis au chômage et donc je passe beaucoup plus de temps sur le logiciel. Et j'essaye d'inciter du coup les associations utilisatrices, particulièrement celles qui sont sur notre plateforme Cloud Garadine, si on veut, qui est garadine.eu. Donc on peut créer son compte sans rien installer et sans aucune connaissance technique. Donc les inciter à participer au financement du logiciel et du service. Ce qui a permis du coup depuis février dernier, si je dis pas de bêtises, de financer du coup la participation d'Isabelle qui travaille sur la documentation de Garadine à hauteur d'une journée par semaine. Depuis ce moment-là, et normalement, si tout continue bien, à partir de février ou mars 2022, je pourrais aussi être enfin payé un petit peu, c'est-à-dire à peu près une journée par semaine pour travailler sur Garadine.
D'accord.
Donc c'est un modèle économique qui est basé sur la contribution libre, donc sur un don annuel d'un montant qui est choisi à l'appréciation de l'association.
En sachant que si chacune des 4000 associations qui sont hébergées sur le service donnait 10 euros, ce serait déjà bien, mais on est pour l'instant à peu près à un tiers de cet objectif-là sur l'année 2021, donc j'espère que ça va s'améliorer sur l'année 2022 et que aussi les associations qui utilisent le logiciel en auto-hébergement financeront aussi, parce que il y en a quand même beaucoup. Alors évidemment, vu que c'est un logiciel libre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas combien d'associations utilisent Keradin en auto-hébergement, mais je pense qu'il y en a quelques milliers. Voilà.
D'accord. Et parmi celles qui ne sont pas en auto-hébergement, donc qui sont hébergées sur les serveurs, il y en a qui ne contribuent pas, qui n'ont pas perçu forcément qu'il fallait aider le logiciel à se développer? Quelle est la proportion, si ça peut être dit, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de le...
Non, il n'y a pas tout à fait, moi je suis tout à fait transparent. Alors il y a à peu près 4200 associations inscrites, mm-hmm. Environ 3600 qui sont actives dans les 12 derniers mois, et là-dessus il y en a à peu près 400 qui ont participé au financement dans l'année 2021.
Et c'est pas les plus grandes.
Oui, c'est pas beaucoup, hein. Donc on va encourager celles qui nous écouteraient par le plus grand des hasards à contribuer, parce que quand on regarde que le logiciel a commencé en 2011, le trajet est très très long, enfin je suis admiratif de la persévérance de l'équipe qui est penchée sur le logiciel depuis 2011, parce que il y en a qui auraient abandonné depuis très très longtemps, étant donné que tu nous annonces avec fierté que tu vas peut-être pouvoir être payé une journée par semaine l'année prochaine pour développer le logiciel. Voilà, on va pas faire du mirabilisme, c'est pas l'idée, mais en tout cas, oui, c'est beau de s'accrocher sur ce développement-là. Moi, je suis très reconnaissant. Bah,
c'est principalement moi, parce que le logiciel, j'en avais besoin pour mon association, et donc le développement s'est fait de manière bénévole jusqu'à l'année dernière, mais que maintenant, en fait, c'est surtout le fait que le service et que le nombre d'associations l'utilisant est quand même assez important. On a quand même, moi je passe à peu près 2 heures par jour à répondre aux mails des gens, donc c'est quand même un temps qui commence à devenir conséquent au service des gens, et qui peut pas continuer de manière bénévole toute la vie, quoi.
Bien sûr, et on peut même se dire, mais celles qui ne contribuent pas finalement ne se rendent pas compte que, par exemple, toi tu dois louer des serveurs, tu as de l'électricité, donc ça veut dire que c'est même toi qui, quelque part, entre guillemets, ou l'association met de leur poche, quoi. C'est quand même...
Oui, alors après, les serveurs, c'est pas grand-chose. C'est vraiment un temps humain, et donc le temps humain, ça se paye, et surtout et la compétence aussi.
Bien sûr.
Donc c'est surtout ça. Quand on voit le prix des services en ligne de gestion d'assaut concurrents, on va dire, les tarifs sont de l'ordre de 200, 300, 500 euros par an minimum, quoi. Donc c'est vrai que là, quand on voit sur le service qui peuvent avoir des chiffres d'affaires entre guillemets, des recettes annuelles qui dépassent les 100 000 euros, je pense que je vais commencer à faire des petits mails pour dire aux gens que ça serait bien de contribuer, quoi.
Oui, je pense que c'est important de montrer effectivement ce que ça représente, parce que finalement les gens n'en prennent pas conscience. Moi, alors du coup, je peux peut-être faire un tout petit parallèle. Moi, je travaille au CMEA, ça a peut-être déjà été évoqué. On a un logiciel, c'est pareil, qui permet de collaborer, qui s'appelle Zurit, et dans lequel potentiellement on propose l'intégration de Keradin. Nous, le service Zurit qu'on fait payer annuellement, pour lequel c'est absolument minimaliste, c'est juste pour payer les serveurs et le développeur, et un tout petit bout de développement qui est à la Réunion, et donc il n'y a rien qui revient au CMEA, c'est déjà 70 euros par an, donc voilà, c'est vrai que c'est entre 0 et 70 euros, il y a beaucoup de marge de progression, et par rapport au nombre d'associations contributrices que tu évoquais, il y a de la marge de progression pour Keradin, je pense, quoi. Non, mais c'est important de prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière, et c'est vrai que quand on est utilisateur, surtout quand c'est un logiciel libre, on se dit non, ça marche, ça fonctionne, je me pose pas de questions sur le modèle économique derrière, mais c'est important à montrer, quoi, ça me semble-t-il.
Voilà, ouais. Après le but de Keradin, c'est pas de devenir une grosse entreprise et d'avoir 20 personnes derrière. Le but, c'est de moi ce que je dis, c'est je suis un artisan du web, donc je fais de l'artisanat, je fais un petit logiciel à mon rythme, dans mon coin tranquillement, à la vitesse où j'ai envie, et avec en accord et avec les demandes que les gens peuvent me faire, et surtout moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation humaine. Donc c'est pour ça que je suis très attaché à écouter les retours des utilisateurs du logiciel. Et quand on me fait des demandes, j'essaye de comprendre le contexte de l'association derrière et comment elle fonctionne, et d'essayer de voir comment répondre à leurs besoins avec Garadine. Et donc c'est aussi la démarche que j'ai au niveau de l'interface et de la simplicité, c'est de me dire comme disait tout à l'heure Isabelle sur le problème des balances d'ouverture, si les gens ils bloquent, c'est pas forcément que les gens ils sont trop bêtes pour comprendre, c'est peut-être que le logiciel il est mal conçu et que là il y a quelque chose à améliorer. Et donc moi c'est toujours la démarche que je vais avoir sur ce genre de problème. Et si le problème se répète avec plusieurs personnes, c'est que probablement il y a quelque chose à améliorer, il faut réfléchir comment faire.
Ben merci pour ces précisions. Moi j'admire beaucoup cette modestie dans le logiciel libre qu'on retrouve assez couramment sur des projets comme ça, de ce type-là. Je trouve ça admirable. Voilà, on n'a pas toujours ça dans notre société où il faut écraser l'autre, faut gagner du pognon tous les jours un peu plus qu'hier. Enfin bref, donc moi je trouve ça plutôt sympathique comme projet, vraiment. Je me permets peut-être de passer, alors tu l'as un petit peu évoqué justement cette relation à l'utilisateur et à l'utilisatrice, parce qu'on est dans la question du logiciel libre et donc du commun numérique, se pose la question de la gouvernance, qui a un petit peu répondu, mais comment est pensée et comment évolue la gouvernance du projet?
Elle n'est pas... C'est pas une question très compliquée, parce que étant donné que je suis le seul développeur à travailler majoritairement, à part quelques contributions irrégulières, c'est moi qui décide, hein, j'ai pas. Mais comment ça fonctionne, ça fonctionne en fonction des demandes qu'on me fait et en fonction des retours que j'ai des utilisateurs sur les lignes de discussion, par chat, etc.
Oui, mais finalement, c'est on est en train de montrer qu'il y a une vraie gouvernance du projet par les utilisateurs. Même si, encore une fois, tu es un petit peu modeste sur en disant « bah oui, c'est moi, je suis le seul développeur, donc c'est moi qui décide ». Sauf que finalement, tu décides parce que tu as des échanges quotidiens avec les utilisateurs et les utilisatrices, que tu comprends pourquoi ça bloque, donc ce qu'il faut améliorer, etc. Donc on a une forme, finalement, de gouvernance partagée dans l'évolution des fonctionnalités. Je sais pas, Isabelle, tu veux compléter un peu?
Je compléterai à mon niveau, puisque moi je m'occupe effectivement aussi de répondre aux gens, de faire de temps en temps des rapports de bugs, mais pas souvent, et surtout de rédiger l'aide en ligne de Garadine, ce qui est extrêmement important. Et je pense que tous les gens, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui font du logiciel libre, c'est important, pas uniquement pour aider les gens, mais en termes de communication. Parce qu'on va tomber dessus au hasard d'une recherche, on va se dire, tiens, ce logiciel, il fait ça, pof, peut-être que je le prends ou pas. Donc, sur l'aide, c'est pareil. Je veux dire, il y a des pages d'aide que j'ai faites parce qu'il fallait les faire, normal. Et puis d'autres que j'ai faites parce qu'il y avait des demandes, il y avait des questions sur les balances d'ouverture, sur comment je démarre dans Garadine, où est-ce que je mets mon argent. Enfin, en compta, évidemment. et ce genre de choses. Donc il y a aussi, il y a de l'aide aussi. J'ai fait à un moment donné une page que j'avais faite au moment de l'incendie d'OVH, parce qu'il manquait une page sur la sauvegarde. Mm-hmm. Alors là, une page détaillée expliquant pourquoi c'était utile, comment la faire, etc., etc. Donc et ça c'est très très important. Je crois que c'est un petit peu l'intérêt de logiciels comme Garadine, c'est qu'on est quand même très près des gens qui utilisent le logiciel, et comme ils s'adressent à la liste d'entraide ou à la liste support quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors déjà sur la liste d'entraide il peut y avoir d'autres gens qui répondent. Ouais. Ça c'est bien en compta, parce qu'il y en a qui sont assez trapus en compta, donc du coup ça aide pour faire d'autres pages d'aide et ainsi de suite. Ça auto-alimente en fait l'information et la documentation sur le logiciel. Et en plus, parce que ça donne aussi, il y a des choses que j'avais écrites en me disant, tiens, il y a cette question-là, il n'y a pas la fonctionnalité, j'appuie sur un bouton et ça fait ça dans le logiciel, mais comment je peux trouver moyen de faire ça? Donc je citais le budget prévisionnel, mais il y a d'autres exemples. Hein. Mmh.
Très bien. Bah, oui, alors effectivement, on retouche encore une fois cette vertu du logiciel libre qui fait que la communauté s'auto-alimente. Quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire quand sur une liste, finalement, c'est pas le responsable du projet ou le développeur qui répond systématiquement aux questions, mais justement les autres utilisateurs ou utilisatrices qui ont déjà rencontré le problème, qui aident les nouveaux arrivants. Moi, je trouve ça très vertueux, en fait, comme fonctionnement. Donc, merci pour cet éclairage. Alors, si on devait peut-être préciser un peu pour quelles associations Garadine était le plus adapté. Est-ce que José, tu peux nous éclairer?
Oui, très bien, je peux tout à fait apporter une réponse. Alors, de mon point de vue, ce sont toutes les associations, particulièrement les associations, justement, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure, qui, comme il existe beaucoup en France, le club de foot, enfin, etc. Peut-être les limites que je souligne ici, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de gestion de TVA, il n'y a pas de liasse fiscale. Il n'y a pas de rédaction du salaire, mais pour les salaires, on peut faire appel à des partenaires comme la SAMDA pour le milieu agricole ou l'URSSAF pour d'autres. Et donc, effectivement, pour moi, comme ça, je dirais qu'il n'y a pas de limite dans les associations. Il a été dit tout à l'heure, et c'était très juste, qu'effectivement, parfois, les comptables utilisent des outils. Alors, soit parce qu'ils ont des abonnements, soit parce qu'effectivement, ils ont une préférence avec un outil professionnel propriétaire, hein, pour être à l'opposé du logiciel libre et open source que vous avez bien expliqué. Et comment, il n'empêche quand même qu'un outil comme Garadin, ça permet effectivement pour toutes les associations d'utiliser ce système, de gérer son association.
Merci José. Alors du coup, on a évoqué le nombre d'associations qui utilisent les serveurs de Garadin. On ne connaît pas le nombre d'associations qui s'auto-hébergent sur le logiciel. Je regarde un petit peu les questions qu'on s'était posées, mais finalement, les budgets les plus importants qui ont été consolidés avec Garadin, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous donner quelques chiffres finalement pour qu'on puisse appréhender justement et consolider un peu ce que vient de nous dire José?
Alors ça va dépendre, parce que toutes les associations qui sont auto-hébergées, on n'a pas de données. Par contre, sur garadin.eu, le plus gros budget, ça doit être dans les 600 000 euros. Voilà, après, ouais. On a des associations avec plus de 6 000 membres aussi.
Oui, d'accord, donc ça commence à être des belles associations, là, hein, quand on a un chiffre d'affaires d'un demi-million et puis c'est plus de 6 000 adhérents. Donc là, voilà, ça montre un peu, en tout cas, le plafond. Alors, c'est pas le plafond haut, hein, puisqu'on peut peut-être sans doute aller au-delà, mais ça donne bien une idée de où on peut aller. Isabelle.
Ah oui, alors on a aussi des associations étrangères. On a comme ça une association belge. Alors, comment je le sais? Parce que sur la liste d'entraide, justement, on a comme ça une association belge qui nous a demandé une fois, est-ce qu'on a un plan comptable, un exemple de plan comptable belge? Parce que, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, on peut ajouter des plans comptables à Garadin. D'ailleurs, là, j'en ai ajouté qui sont le plan comptable général pour les micro-entreprises, le plan comptable des copropriétés et le plan comptable des... je sais plus comment ça s'appelle, les genre ce qui a les CE, comités, CHSCTO, tout ce qui a remplacé tout ça. Alors, on a eu ça. On a aussi eu des gens qui nous ont dit « Ah ben, je voudrais comment on peut traduire Garadin, le logiciel ?» Donc, ça veut dire qu'une association italienne ou c'est une autre qui était hispanophone qui veut traduire le logiciel, ça veut dire qu'elle l'utilise. Donc elle va intégrer aussi son plan comptable, etc., etc. Donc c'est ça aussi, je veux dire, on est par rapport à d'autres logiciels plus fermés. C'est beaucoup plus ouvert sur des tas d'autres gens.
Ça se fait en fonction des besoins, quoi. Oui. Ça c'est voilà, c'est exactement ça. Là où un logiciel propriétaire ne verrait pas de marché en se disant bah non, ça concerne que trois personnes, on va pas le faire. Là où il y a finalement un besoin, trois personnes, elles vont peut-être le faire, quoi. Ça fait une sacrée différence aussi. Le temps file, je passe en revue les questions qu'on s'était un peu listées et je vois éco-conception. Est-ce que Boas, tu veux un peu évoquer cette logique-là vis-à-vis de Garadin?
Oui, alors c'est un point aussi qui me semble important. Alors moi, les retours des professionnels de l'informatique, on va dire, sur Garadin, ça a souvent été... ça fait vieillot, nanana, un truc comme ça. Oui, si on veut. Alors moi, ce que j'aime bien dans la conception logicielle, c'est d'avoir des interfaces qui vont être stables. C'est-à-dire que ça va pas changer tous les ans et on va pas devoir tout réapprendre les habitudes qu'on a prises. Et donc j'aime bien les choses qui ne bougent pas trop. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect technologie. Au niveau technologie, on est sur des technologies très simples et très légères, donc on n'a pas des choses qui vont être très lourdes à charger. On a des pages qui sont relativement légères, très rapides, avec très peu de JavaScript, donc très peu de d'utilisation processeur au niveau du navigateur qui va utiliser le logiciel. Et ça, c'est des choses que, au niveau de l'industrie informatique, on va dire, c'est relativement mal vu. Moi, le retour des utilisateurs que j'ai, c'est c'est vachement bien, c'est simple, c'est rapide, ça fonctionne, ça mouline pas, ça fait pas ramer ma machine. Et moi, c'est des retours que j'aime bien avoir. Et effectivement, derrière, c'est parce qu'il y a toute une conception qui fait qu'on va essayer de limiter au maximum, que ce soit l'empreinte d'utilisation du serveur, que ce soit aussi l'empreinte au niveau du navigateur de la personne qui va l'utiliser.
D'accord, donc c'est vraiment pensé pour la sobriété numérique, et ça c'est une bonne chose aussi à une époque où on parle on sort de la COP26, me semble-t-il. Très bien. Est-ce que... vous pouvez peut-être nous évoquer les plus grandes difficultés, alors si on en a évoqué une déjà tout à l'heure, par rapport à finalement la balance d'entrée dans le logiciel. Est-ce que vous avez d'autres difficultés en tête que les utilisateurs ou utilisatrices auraient rencontrées et que du coup vous avez pu résoudre ou qui sont encore finalement bloquantes pour certaines associations? Qui est-ce qui veut prendre la parole?
José peut-être.
Alors, je peux rapporter effectivement une expérience personnelle. L'élément, ce qu'on appelle activité cotisation versus tarif. C'est une approche. Quand on analyse, c'est très très bien fait, mais c'est vrai qu'en première approche, faut bien regarder le système. Et moi, à titre personnel, quand je l'ai mis en place dans mon association. Justement, c'est l'équipe de Garadine qui m'a aidé à bien mettre ça en place. Donc ça, c'est vrai que je trouve parmi les prises en main peut-être un point vraiment à regarder. Maintenant, comme ça a été souligné tout à l'heure, la notion effectivement de reprise de compte aussi, c'est quelque chose d'assez important et il faut bien regarder le sujet.
Oui. Oui, c'est intéressant parce que ça reboucle aussi avec la discussion qu'on avait en entrée de sujet avec Isabelle sur la cotisation, l'adhésion. Quand les associations ne sont pas claires elles-mêmes vis-à-vis des termes, vis-à-vis de comment elles définissent les choses, du coup, la traduction dans un logiciel est encore plus complexe. Et c'est vrai que ça fait partie souvent des accompagnants que de clarifier ça pour pouvoir justement le traduire et le mettre en œuvre dans le logiciel ensuite.
Alors, il y a une autre difficulté et... Boas tout à l'heure parlait des catégories, c'est-à-dire qui donnent des droits sur Garadine, c'est-à-dire rien d'autre. C'est pas lié à autre chose, c'est pas lié à un type de projet, etc. Et ça, les gens ont un peu de mal à comprendre, parce qu'effectivement, on ne peut être que dans une catégorie, ce qui veut dire que on va avoir le droit de faire ça, ça, ça et ça ou pas ça. Et ça, j'ai vu beaucoup de passer de demandes là-dessus. Alors bon, je vous avoue que je ne sais pas trop comment, une fois qu'on a fait une page d'aide très claire, qui me semble claire, là je ne vois pas trop comment aller plus loin. Parce que c'est quand même une dimension plus informatique qu'autre chose. Et ça...
Bien sûr, et celui qui n'a pas beaucoup de droits ne voit pas certaines icônes, certains menus, donc du coup il ne peut pas savoir que ça peut potentiellement exister. Enfin, c'est vrai que c'est une complexité...
Et quand on n'a pas de culture informatique, c'est pas forcément évident à comprendre, pas à saisir comme ça d'entrée de jeu.
D'accord, donc ça fait partie des éléments à accompagner pour les utilisateurs et les utilisatrices. On va arriver à la fin.
Je peux me permettre d'intervenir là, parce que je me permets d'intervenir parce que ça a été aussi un débat un peu, non pas chez nous, mais il y a eu un peu des échanges. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les groupes, ça se trouve aussi. Et c'est vrai que on a maintenant un moyen de pouvoir voir les choses sous un autre angle, du point de vue des utilisateurs. Je ne parle pas du point de vue technique, mais du point de vue des utilisateurs. Parce que souvent, ce que veut l'utilisateur, lui, c'est pas trop la problématique de ces droits d'usage, parce qu'en général, enfin, quand je parle de l'utilisateur, c'est les dizaines ou les centaines de membres. Je parle pas vraiment des gens qui font de l'administration. Et le fait qu'ils, par contre, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir se retrouver dans des groupes. Par exemple, imaginons que vous êtes dans votre association, vous êtes un expert, enfin vous êtes un groupe qui travaillait sur LibreOffice ou sur Ubuntu, qui est un système d'exploitation. Et bien, le fait de pouvoir faire des groupes qui permettent de regrouper les gens justement derrière cette dénomination, ça permet aux utilisateurs de mieux se reconnaître. Et c'est un élément de synergie qui est très intéressant.
Merci pour cette précision. Isabelle, il va falloir conclure chacun, donc je vous laisse la parole chacun une minute pour conclure, comme ça on va redonner la parole à Isabella.
Est-ce que je me permets de commencer peut-être? Excuse-moi, parce que comme c'est plutôt côté utilisateur, je vous laisse pour l'aspect plutôt opérationnel et technique. Ce que je voulais souligner aussi ici, c'est avec Garad, au-delà des aspects techniques, il y a vraiment deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord la possibilité de valoriser le bénévolat, ce qu'on appelle le bénévolat. Je ne vais pas revenir dessus, ça a été dit. Mais c'est vraiment un élément de dynamisation des équipes, parce que les équipes eux-mêmes peuvent se prendre en route, en charge, par rapport au bénévolat de l'association, et c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est vraiment très importante à mon point de vue, c'est justement l'hébergement qui est proposé par Garadin. Et c'est quelque chose donc que je recommande à tout le monde, particulièrement pour la majorité des associations qui n'ont pas de ressources justement informatiques, que ce soit un administrateur système ou que ce soit tout simplement l'hébergement. Et en plus, grâce à l'hébergement Garadin, on dispose immédiatement d'un nom de domaine, parce que ça c'est souvent des questions qu'on nous pose, mais comment fait-on pour avoir un nom de domaine? Eh bien là, on a immédiatement un nom de domaine. La maintenance, tout ce qui est mise à jour, etc., tout ça, l'association n'a pas à s'en occuper, donc elle n'a pas besoin d'avoir un administrateur système. Et puis, vous avez toute l'aide, c'est très, très, vous avez toute l'aide qui est quand même disponible, ça a été dit, je le redis pas, c'est quand même extrêmement important. Et donc, la conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est que finalement, Garadin, pour moi, c'est la figure de proue de ce qu'on appelle la transformation numérique des associations. Et au-delà de ça, donc la transformation numérique à l'aide des logiciels libres open source qui ont une philosophie qui est beaucoup plus en accord avec justement, qui est plus alignée sur la philosophie
associative, la valeur des associations en général.
Merci. Voilà, je me suis permis. Je pense peut-être que tu feras une annonce, mais donc il se trouve que WASUX organise une conférence sur.
Isabella fera une annonce à la fin de l'émission.
D'accord.
Il nous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes chacun, Isabelle et Boaz. Isabelle,
30 secondes. Je peux rien dire de plus, sauf que Garadin Plus respecte parfaitement le RGPD.
Ah oui, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais voilà, on avait déjà évoqué le fait que c'était respecté. Boaz, pour la conclusion.
Ouais, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, pour les gens qui seraient intéressés, vous pouvez essayer le logiciel directement sur le site garadin.eu. Et n'hésitez pas à faire des remarques, des retours. On est toujours ouvert à prendre des suggestions et des idées. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour votre participation, avec des conditions au début qui étaient un peu complexes, mais en tout cas je pense que oui, tout ce qu'on a pu échanger, ben, ce sera précieux pour le podcast de Libre à vous. Et je repasse la parole à Isabella.
Merci beaucoup Laurent, merci à tous nos invités.